Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Midi pile à Kinshasa, 13h à Bounia, en Ituri. Voici les titres de ce journal. Récrudescence de la rougeole dans la province du Kwilu depuis le début de l'année, avec plus de 5700 cas notifiés, dont ça et 3 décès, en majorité des enfants de moins de 5 ans. Faute de moyens, aucune zone de santé au Kwilu n'a encore organisé la riposte, se plaint la division provinciale de la santé qui livre ces chiffres. Human Rights Watch dénonce la répression sévère contre l'opposition au moment où l'on s'achemine vers les élections en RDC. Dans un communiqué, cette organisation internationale de défense des droits de l'homme recommande au gouvernement de veiller à la liberté d'expression, aux manifestations pacifiques et autres réunions sans restriction. L'invité de ce journal est la directrice du centre Maman Lynn de la 81e communauté méthodiste unie au Congo Est. Marie-Claire Manafundo parle depuis Kindu au Maniema de l'apport de ce centre dans l'autonomisation des femmes du Maniema. Mesdames, Messieurs, bonjour. Récrudescence de la rougeole dans la province du Kwilu depuis le début de l'année en cours. Plus de 5700 cas sont notifiés, parmi lesquels 103 décès, en majorité les enfants de moins de 5 ans. Ces statistiques sont révélées par la division provinciale de la santé du Kwilu, qui indique qu'aucune zone de santé n'a encore organisé la riposte, faute de moyens. En attendant, l'appel est lancé aux parents à respecter le calendrier vaccinal de leurs enfants. Le point avec Irène Boma.
Dans un entretien mardi 22 août dans son cabinet de travail à Bandundouville, Dr. Emerance Nyoka, qui assume l'intérim du chef de division provinciale de la santé du Kwilu, a indiqué que parmi les 24 zones de santé qui composent cette division provinciale, au total 16 sont actuellement touchées par la rougeole. Elle cite notamment les zones de santé de Bandundu, de Bagata, de Bulungu, Lusanga, Kikwit Nord, Kikwit Sud, Masimanimba, Mwanza, Mungindu, Kingandu, Gungu, Koshibanda, Paikongila et Yasabonga. Docteur Emerance Nyoka.
Depuis le début de l'année jusqu'à ces jours, les zones de santé ont notifié 5768 cas de rougeole et il y a eu 103 décès. Et on a envoyé les échantillons au niveau national INRB. 118 échantillons sont rentrés positifs. La réponse n'est pas encore organisée puisqu'on n'a pas assez de moyens, mais dans les perspectives, il y aura la réponse contre la rougeole à travers toute l'étendue de la province.
La prise en charge de cette maladie étant gratuite, Dr Nyoka invite les parents à toujours amener leurs enfants dans les établissements de soins les plus proches dès l'apparition des symptômes et elle encourage également la vaccination des routines des enfants. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
En Ituri, 7 morts, dont 2 policiers et une dizaine de maisons incendiées. C'est le bilan provisoire d'un conflit de limite entre les villages Nyatcha et Adovo dans la chefferie des Loups en territoire d'Arou. Selon des sources officielles, l'une des parties en conflit, voulant se rendre justice lundi à mardi, hier mardi, a fait usage des armes à feu blanche, ce qui a causé la mort d'hommes. Une dizaine de maisons ont été incendiées par les belligérants dans les deux entités coutumières. L'armée a été renforcée dans ces milieux pour ramener la paix. Des détails avec Martial Kizabiamungu.
C'est depuis le 20 août dernier que les habitants des villages de Nyatcha et Adovu se disputent une zone de limitation qui sépare ces deux entités. Un groupe d'habitants du village d'Adovu, appuyé par des jeunes armés d'un village voisin du territoire de Djougou, ont envahi le village de Nyatcha, ce qui a poussé ces habitants à réagir. Selon les autorités coutumières locales, ces échauffourées ont causé la mort de 5 personnes de deux villages. Parmi des policiers qui ont voulu intervenir pour calmer la situation, deux ont été tués par balle. La même source signale que des dizaines de maisons et des véhicules ont été incendiés. Dans sa communication ce mardi à Bounia, l'armée affirme qu'elle a déployé ses éléments sur le lieu du conflit pour rétablir la paix. Le lieutenant Gilles Ngongo.
Lieutenant général Luboya Kanchama Johnny ordonne au service de sécurité de renforcer les dispositifs sécuritaires et le rendre plus robuste. Par ailleurs, appelle la justice de diligenter les enquêtes dans l'immédiat contre les auteurs et co-auteurs de ces tueries.
Des notables d'Arou demandent aux autorités de tout mettre en œuvre pour stopper cette tension avant que certains ennemis de la paix n'en profitent pour créer une situation d'insécurité. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
49 ex-otages et ex-combattants de ZADF, dont 23 Congolais, qui ont achevé un programme de 3 mois de suivi psychosomatique, de séances de radicalisation et d'apprentissage, ont été présentés aux médias hier mardi à Kampala, en Ouganda. C'est le porte-parole de l'armée ougandaise qui a présenté ces victimes des ZADF aux médias. Ces personnes bénéficient d'un accompagnement et la prise en charge de l'organisation internationale Brit Gay Foundation, qui étend ses activités en Ouganda, au Nord Kivu et en Ituri. Des détails avec Bernard Nyangi.
Dans ce mot, le porte-parole de l'armée ougandaise a reconnu que la population congolaise a été la plus meurtrie par des atrocités des ZADF, avec le massacre des milliers de personnes. Cet officier militaire n'a pas manqué de condamner le kidnapping et l'enrôlement forcé des enfants par les ZADF, dont la plupart sont des mineurs, afin de les utiliser dans leurs projets macabres. Ces enfants, filles et garçons, pour la plupart mineurs, ont fait des témoignages poignants qui sont souvent interrompus par des sanglots et ont retracé la souffrance qui leur a été infligée pendant la période de leur captivité par les ZADF. Notez que ces ex-combattants et otages des ZADF sont prêts à être réinsérés dans la communauté, d'abord les Ougandais et ensuite les Congolais qui doivent rejoindre leur milieu respectif. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
À Beni, une forte tension a été observée hier mardi devant la base logistique des FARDC à Losakaf. Des veuves, des militaires et leurs enfants manifestaient pour protester selon eux contre l'omission de leurs dons sur la liste de veuves et orphelins militaires. Après le contrôle physique effectué par la délégation de l'inspection venue de Kinshasa, l'armée affirme de son côté qu'il s'agit de vraies fausses veuves de militaires, car détentrices des faux documents orchestrés par certains officiers militaires. Marc Marofimbo pour plus de précisions.
Ces femmes qui prétendent être veuves des militaires affirment être identifiées par les services administratifs militaires depuis la mort de leur mari. Elles se disent surprises de ne pas voir leur nom sur la liste des bénéficiaires après le dernier contrôle de l'inspection générale des FARDC. Mais une manifestante qui a requis l'anonymat reconnaît cependant que parmi elles figurent des femmes avec des faux documents obtenus auprès de certains officiers militaires. Il y a certainement des magouilles dans l'enregistrement des veuves militaires. La justice militaire est en train d'examiner la situation au cas par cas, indique le capitaine Anthony Malouchaï.
Nous avons constaté ensemble avec la délégation qui a des magouilles parce que le contrôle est tellement rigoureux. Il y a de fausses veuves qui détiennent 3, 4, 5 cartes de lecteurs, mais il faut les dire qu'il y a de vraies veuves aussi qui sont déjà dans d'autres provinces, parfois qui ne reçoivent plus rien, or que ces fausses veuves et ces faux orphelins sont ici en train de bénéficier les salaires des soldats. Il y a certains de nos officiers qui sont toujours dans le magouille et qui vivent de ça. Et les dire, ce n'est pas un péché. Le mal, nous devons les combattre. Laissez les antivaleurs à côté.
Signalons qu'une quarantaine de femmes qui se faisaient passer pour des veuves des militaires ont été arrêtées par des faux documents sur un total de 127 dont les dossiers sont passés au peigne fin par des inspecteurs venus de Kinshasa. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Et colère des agents des cabinets du gouvernement provincial d'Ikwilu. Ils ont arrêté le travail depuis 3 jours pour exiger le paiement de leur quotité sur les recettes provinciales. C'est notamment le paiement de la quotité des recettes produites par la régie provinciale pour le mois de juillet. Il y a aussi la quotité de l'air dû sur les épreuves certificatives, notamment la dissertation et l'examen d'État. Le secrétaire général du gouvernement qui réfute les allégations d'arrêt de travail justifie cet impayement par le retard de la rétrocession devant venir de Kinshasa. Maître Mouma Zéphirin Ngomouzei est joint par Irène Boma.
Tout ce que nous pouvons dire, c'est d'abord que dire qu'ils ont arrêté le travail, c'est faux, parce que le travail continue. Mais dire qu'ils ont demandé l'argent, ils ont fait une réclamation, une revendication, c'est ce qui est vrai. Mais le gouverneur Haï les a reçus pour entendre leur doléance. Ce qui est vrai, c'est que nous connaissons un petit problème, un retard de paiement. Tout est dû par rapport aux rétrocessions qui n'arrivent presque plus, qui constituent une ressource importante pour une province. Alors, toutes les fois que le feu de fonctionnement n'arrive pas avec le maudit recette que nous avons, et nous les affectons au fonctionnement des institutions. Ce qui ne permet pas de couvrir l'enveloppe de la masse salariale. Mais nous avons parlé avec eux, on les a appelés à la patience, et dès la fin du mois, ils auront leur argent. Mais ce qui n'est pas correct dans la revendication, c'est lorsque les gens réclament quotité minervale, quotité frais d'examen d'État, quotité recette locale. Ça n'existe pas.
Les militaires qui sont dans les carrières minières et ceux qui font la garde, c'est des particuliers, doivent vite rejoindre leurs unités respectives sous peine d'être sanctionnés. C'est sur ressort de la causerie morale présidée lundi dernier par le chef d'état-major de FARDC au camp-major Vangou à Lubumbashi. Pour le lieutenant-général Christian Tchouwe, cette mesure vaut aussi pour les éléments de la garde républicaine. Dans le détail, avec vous Jean Gandou.
Le chef d'état-major général des FARDC a tenu cette causerie morale à l'attention des éléments de la police et des FARDC. Au cours de cette rencontre, il a parlé notamment du patriotisme et de la loyauté des hommes en uniforme, mais aussi de la discipline qui doit les caractériser. Au sujet de la discipline, un accent particulier a été mis sur la présence des militaires dans les sites miniers. Pour le lieutenant général Christian Tchouwe, les militaires doivent quitter ces milieux qui sont inappropriés pour eux. Quitter les carrés miniers, qu'est-ce que vous faites dans les mines? C'est de l'indiscipline. Certains soldats et autres officiers, on dirait que sans les mines, ils ne vont pas respirer.
On dirait qu'on va respirer. Il faut pas s'en abonner. Ceux qui ont la mine, respiration qui est.
Ceci concerne aussi les éléments de la garde républicaine qui doivent se mettre également au pas. Arrêtez tous ceux qui sont dans les mines, qu'ils soient de la garde républicaine ou de la force terrestre. Arrêtez-les tous. Le chef d'état-major général a aussi demandé aux soldats qui font la garde dans les entreprises et autres usines de les quitter et de vite rejoindre leurs unités respectives. Il en est de même de ceux qui sont en détachement chez les particuliers. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Le gouverneur intérimaire de la province du Kasaï oriental interdit aux lauréats de l'examen d'État édition 2023 de se réjouir après 18 heures pour se préserver du phénomène kidnapping enregistré ces derniers temps. Julie Kalenga demande ainsi aux parents de veiller sur leurs enfants et aux services de sécurité de prévenir les éventuels débordements. Cette décision est saluée par les parents de nouveaux diplômés. Des explications avec Esther Ndalafina.
Depuis la publication lundi soir des résultats de l'examen d'État, les lauréats de l'édition 2023 inondent les rues de Mbujimayi pour les réjouissances. Avec des poules et des canards en main, ces jeunes sillonnent les avenues pour manifester la joie d'avoir réussi à l'examen d'État. Témoignage.
J'ai réussi avec 53%, j'étudie à Moulin-Mimoui. J'ai la joie parce que je suis devenue maintenant campicha.
J'ai fait 62%, je suis très heureuse parce que l'année passée j'ai raté, voilà cette année j'ai réussi.
Ressortissante du collège Le Palmier, j'ai fait 57%. Je suis vraiment contente parce que tous nous sommes passés.
Déjà, quelques débordements sont constatés dans ces réjouissances. Pour prévenir le pire, le gouverneur de province intérimaire interdit les réjouissances après 18 heures. Julie Kalenga demande aux parents de veiller sur les enfants et aux services de sécurité de sécuriser les lauréats contre le phénomène kidnapping qui n'a pas encore dit son dernier mot. Cette décision est saluée par les parents d'élèves.
Ils se réjouissent, mais avec une certaine limite pour ne pas provoquer l'occasion à ceux qui sont venus dans notre province pour déranger les enfants. La décision du gouverneur est très bonne et très meilleure, nous les soutenons.
Je me réjouis de notre gouverneur, ce qu'il a dit, c'est très bon. Il faut que les gens se réjouissent, mais un peu.
Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Le gouvernement de la RDC devrait veiller à ce que les candidats de l'opposition à l'élection présidentielle, leurs partisans et tous les Congolais s'expriment librement et organisent pacifiquement leurs manifestations et réunions sans restriction avant les scrutins. C'est une recommandation faite par Human Rights Watch au gouvernement de la RDC. Dans un communiqué publié ce mercredi, cette organisation internationale de défense des droits de l'homme dénonce la répression sévère contre l'opposition au moment où l'on s'achemine vers les élections. Thomas Fessi, chercheur principal de Human Rights Watch sur la RDC, l'est dit au micro de Jeff Ngoy.
On observe depuis le mois de mai une vague d'arrestations et de restrictions frappant l'opposition. Restrictions des droits à la liberté d'expression, d'association, de réunion pacifique et de circulation. Autrement dit, des libertés fondamentales. C'est une tendance que les autorités devraient rapidement inverser car elle risque d'aggraver une situation déjà extrêmement tendue. Des manifestations ont été soit violemment réprimées, soit interdites. Or, tous les partis politiques devraient pouvoir fonctionner pleinement et organiser leur rassemblement sans faire face à de tels obstacles, surtout à la veille de la campagne électorale officielle. Moïse Katumbi n'a pas pu réaliser sa tournée dans la province du Congo central, par exemple. Son conseiller principal, Salomon Kalonda, est aux arrêts depuis fin mai, finalement inculpé pour trahison. Frank Diongo a lui aussi été arrêté, détenu plusieurs semaines, puis relâché. Et un mois après le meurtre de Chérubin Okende, les circonstances restent à élucider. Un contexte donc tendu auquel font face les journalistes aussi qui couvrent ce processus électoral.
Actualité internationale.
Le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a déclaré hier mardi qu'il prend note de la décision de la CEDEAO de déployer une force en attente au Niger et demande une évaluation des implications économiques, sociales et sécuritaires de ce déploiement. Le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a décidé par ailleurs de la suspension de ce pays où un coup d'État a eu lieu le 26 juillet de toutes les activités de l'UA jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel.
L'invité.
L'invité de ce journal est la directrice du centre Maman Line de la 81e communauté méthodiste unie au Congo Est. Marie-Claire Manafundo parle depuis Kindu au Maniema de l'apport de ce centre dans l'autonomisation des femmes au Maniema. C'est dans un entretien avec Florence Kizalunga.
Madame docteur Marie-Claire, bonjour.
Bonjour madame.
Ça fait plus de 5 ans que le centre Maman Line est en train de former les femmes sur différents métiers. Dites-nous, c'est quoi votre motivation?
La motivation, c'est celle de voir la femme se prendre en charge, voir la femme être autonomisée, donc ne pas avoir une vie de dépendance par rapport à ce qu'on est en train de vivre dans la province de Maniema, parce que la plupart n'ont pas étudié et puis elles sont là en train de dépendre. Alors la motivation, c'est de donner de la valeur à la femme.
Et c'est quelle catégorie des femmes que vous encadrez ici?
La catégorie des femmes qu'on encadre ici, c'est celle stigmatisée dans la société, les filles mères abandonnées, les femmes violées, les jeunes filles violées, les vulnérables d'une façon générale, ceux qui n'ont pas pu étudier, et on leur donne l'opportunité de cet encadrement afin qu'ils puissent savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie intellectuelle.
Et cet encadrement porte sur quoi?
L'encadrement porte sur les cours, surtout des métiers, mais la base, c'est sur l'alphabétisation. Là, il y en a qui te disent qu'ils n'ont jamais vu les tableaux noirs. J'ai perdu les parents à bas âge, je ne les connaissais même pas et on ne m'a pas donné la chance d'étudier. Donc, on n'est rien. Alors, on est en train de les former. En dehors des cours pratiques, la pâtisserie, couper couture, savonnerie, il y a aussi les cours d'économie domestique, politesse et la Bible. Ces centres Maman Line, c'est universel. Les centres est une vision de l'autorité numéro 1 de l'Église, Monseigneur Gabriel Hunda. Mais pour lui, toutes les femmes, sans exception aucune, sont les bienvenues au centre.
Autonomiser la femme, c'est bien. Après cette formation, qu'est-ce que vous faites pour elles, pour que quand elles vont sortir d'ici, comment se prendre en charge maintenant dans leur maison, comment commencer?
Ça, c'est une bonne question. C'est une préoccupation grandiose de l'Église. Certes, on va apprendre les femmes à lire, à écrire, comment ils doivent prendre la coupe et couture, la pâtisserie, mais à la fin, il faut donner la femme un kit de réinsertion, laquelle j'étais en train de faire un appel aux personnes bienveillantes, de voir, de tourner leur regard vers l'Église parce que le besoin est grand. À la fin de chaque formation, nous donnons à toutes ces femmes-là, comme elles sont là, 150 femmes formées, bien qu'il y aura ceux qui seront récupérées après, mais les 108 femmes qui sortent aujourd'hui, chacun une machine à coudre, là de la farine, du sucre, du soude, de l'huile pour qu'ils puissent se réinsérer dans la société. Mais aussi, vous avez vu que cette fois-ci, nous avons eu un kit spécial qui n'a pas été toujours au niveau du centre. Nous avons eu l'aide Homme-Corps qui nous a donné le fonds pour soutenir ces femmes-là qui sont victimes des agressions sexuelles au centre Maman Line, pour que quand elle part, elle a tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse se réinsérer dans la société.
Par exemple, cette machine que vous donnez, c'est pour du bon pour la lauréate, il n'y a rien à rembourser à l'Église?
Il n'y a rien, rien alors, rien. Toutes les promotions passées, elles sont là, pleines dans la vie de personne. Il n'y a même pas un pourcentage qu'on réclame. Juste le souci, c'est de voir la femme se prendre en charge elle-même dans sa vie. Il n'y a rien qu'on ramène à l'Église.
Après cette formation, est-ce que vous faites un peu les suivis?
Effectivement, il y a des moments où nous faisons une supervision pour ceux surtout qui sont dans la ville de Kindu. Nous avons leur adresse et on part visiter comment ils sont en train d'évoluer. Mais en tout cas, le résultat est très bon.
Mais l'Église n'a pas l'idée de créer, par exemple, un grand atelier de couture pour que ces femmes qui sortent d'ici, l'occasion de les insérer là-bas?
C'est un projet qui est en cours. L'Église a songé à cela. Si vous allez voir, en face de la mairie, il y a un bâtiment à construire à côté de l'université méthodiste de Kindu. C'est dans la projection de faire ce genre d'activité pour les femmes qui sortent ici. De donner aussi le travail à ces femmes, mais de continuer à les encadrer pour qu'ils deviennent encore plus grandes.
Docteur Marie-Claire, votre finalité, c'est quoi?
Notre finalité, c'est de voir ce centre devenir grand et que les femmes qui sortent d'ici soient des responsables, qui s'effacent leur entreprise. C'est comme nous les encourageons. Nous voulons qu'elles deviennent des entreprenantes dans la vie et que chacun ait son entreprise progressivement avec la projection de faire des épargnes et vivre en toute liberté, quoi.
Docteur Marie-Claire, merci.
Merci beaucoup, madame.
C'était l'invité de ce journal, la directrice du centre de formation Mamaline de la 81e communauté méthodiste unie au Congo-Est, Marie-Claire Manafundo, s'entretenait depuis Kindu au Maniema avec Florence Kizalunga. Fin de ce journal qui a été mis en onde par Mimi Kindu, Blaise Sindani, la coordonnée Ben Kabamba l'a supervisé. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.